Bienvenue à vous qui venez d'entrer dans la deuxième partie de C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Si vous avez manqué la première partie, de quoi avons-nous parlé ? Nous avons parlé actu, du livre Dramadol de Rose Vidal et de l'exposition Disco I'm Coming Out. Allez l'écouter si vous l'avez manqué. Et pour cette deuxième partie, nous continuons avec les arts de la scène, l'architecture et la musique. C'est parti !
Bande dessinée,
jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
À mon tour de vous parler architecture, je vous emmène dans une réflexion mêlant bâtiment et nature. Mercredi dernier, je suis allée voir l'exposition Naturalia de Jonc au quai de la Photo, et c'est une visite un peu particulière que je vous propose aujourd'hui. Lorsque j'arrive sur les bords de Seine, pas de grandes galeries au plafond géant et au couloir infini, non, plutôt une trentaine de photos en accès libre sur la terrasse du quai de la Photo. Je suis un peu dubitative, il faut slalomer entre les tables pour regarder les clichés et il n'y a pas vraiment d'explication. De mon amie Louise, on demande des renseignements autour de nous. Hugo, sur qui on tombe, nous fait rencontrer Anna, la médiatrice culturelle du lieu. D'un coup, la visite prend une autre tournure. Anna nous escorte au coin de chaque photo et nous présente l'exposition en détail. Je vous laisse la rencontrer.
Ah, je suis en mode interview là, trop stylé.
Oui, ah, ça rec déjà, oh merde.
Oui, bah oui, il est bien mieux.
Bonjour à tous, je m'appelle Anna. Pour vous expliquer un petit peu le parcours de Jonc, donc il a commencé en fait en faisant des graffitis, du street art. Il allait dans les catacombes, il a toujours été passionné par les endroits un peu niche, on va dire, dans Paris. Et du coup, il allait voilà, dans les catacombes, dans les... tous les endroits un peu cachés, les anciennes rames de métro, tout ça, et il graffait sur les métros sous le nom de Jonc.
Et il est français ?
Il est...
La fin de la visite.
C'est terminé pour moi. Bah, c'est une bonne question. Figurez-vous.
Évidemment, la visite ne s'est pas arrêtée là. Anna a pris le temps de nous présenter chaque lieu des 33 photos de l'exposition. Des clichés où il y a plus de vert que de gris, où les branches, les feuilles et la lumière prennent toute la place sur des briques de béton ou des façades en décomposition. Jonc, cet artiste photographe, d'abord intéressé par l'urbex, se concentre sur la place que prend la nature et comment elle reprend ses droits lorsque toute trace humaine disparaît. Et pour illustrer cette quête, il déniche des endroits délaissés dans le monde entier et les prend en photo lorsque la nature déborde. Manoirs abandonnés, silos déserts, anciennes écoles déchues après une guerre, statues trônant au milieu de parcs inoccupés, en Belgique, en France, au Portugal ou en Géorgie. Jonc a fouillé le monde entier pour trouver ces lieux.
Mais donc en fait, lui il trouve ces lieux-là, mais presque il invente une vie de...
Oui, il c'est imagine... souvent des choses... Alors là par exemple, il sait... que c'est une école communiste construite en 70 en ex-Yougoslavie et utilisée jusqu'en 90 jusqu'à l'éclatement de la Yougoslavie. Donc il a quand même des...
Il fait des recherches.
Il fait des recherches, mais il y a certains lieux où en fait il ne trouve pas.
Et pour ne pas trouver l'histoire de certains lieux, les rend presque mystiques. Mais bon, je voulais quand même, parmi toutes les anecdotes qu'Ada nous a données, vous en partager une puisqu'elle est un peu spéciale. Partons dans un théâtre abandonné à Cuba dans lequel...
Il y a un homme qui vit dedans, qui s'appelle Reynaldo, qui vit depuis 20 ans. En fait, il a mis sa chambre au premier étage du palais. Et il vit avec son chien, qui s'appelle Pouti. Et en fait, si vous regardez le fil qu'on voit tout devant au premier plan, c'est son fil à linge. Et du coup, en fait, il vit ici tout en entretenant quand même la nature, le lieu et tout, et sans prendre trop de place, quoi. Il laisse la nature reprendre le lieu, mais il entretient quand même, et voilà.
Bon, là, j'imagine aujourd'hui que plus personne vit dedans, ou il est encore dedans, ce monsieur ?
D'après ce que j'ai compris, il y a encore.
Naturalia, c'est l'exposition de Jonc qui se trouve au quai de la Photo jusqu'à octobre prochain. Si d'autres anecdotes vous intéressent, contactez Anna qui a réussi avec brio cette chronique. Et pour approfondir le sujet de la nature qui reprend ses droits, il y a également la galerie permanente de Jonc à découvrir dans Paris 10. Alors emmêlez-vous dans ces rouleaux de lierre lors de votre visite et levez la tête dans nos rues parisiennes. Certains arbres pourraient déborder plus vite qu'on ne l'imagine. Allez, passons aux réactions. La nature qui reprend ses droits, vaste sujet, il vous inspire quoi, Ryan ?
Je trouve ça personnellement toujours beau quand la nature se mêle aux constructions humaines et parfois même reprend ses droits. Moi, je trouve que c'est toujours joli les photos de la petite ceinture et de la grande ceinture, de voir ces rails et ces plantes qui poussent par-dessus. C'est dommage qu'il y ait si peu d'explications finalement. Vous avez réussi à choper une...
Non, mais finalement, on a fait toute la visite avec elle et j'ai une ribambelle d'explications, mais j'avais que 4 minutes pour vous présenter le sujet. Mais en tout cas, je pourrais vous les passer si ça vous intéresse.
Eh ben, très envie de voir.
En tout cas, le sujet est intéressant. En fait, on se rend compte que la nature, quoi qu'il arrive, reprend toujours le dessus, surtout quand nous, humains, on n'est plus sur place. Diane, ce sujet, il t'évoque quoi ?
L'histoire du monsieur qui vit dans un théâtre, ça m'a fait penser
quand j'étais encore freelance, j'avais une amie qui habitait à Nantes, je crois, qui avait un coworking qui était dans une chapelle. Et j'avoue, c'est un peu stylé d'aller travailler dans une chapelle pour faire un coworking. Et ça m'évoque, ouais, comme Ryan, moi, je trouve ça très beau que la nature reprenne ses droits, etc. Il y a un côté un peu pas apocalypse, mais révolution de la nature. Je trouve ça très beau.
Garance.
Moi, j'étais en train de réfléchir à l'expression « la nature reprendre ses droits ». Et ça me fait un peu tiquer parce que je me dis que c'est un peu l'œuf ou la poule et que finalement, on s'extrait de la nature et qu'est-ce qui est social, qu'est-ce qui est naturel et que maintenant, on remet beaucoup en question cette binarité-là. Donc, voilà, c'est ce que ça m'inspire.
Oui, après, voilà, c'est la question aussi de la cohabitation. On a fait beaucoup reculer ce qu'on appelle nature, donc les arbres, la végétation, tout le domaine animal aussi. On a fait beaucoup reculer. On voit en fait qu'il coexiste toujours avec nous. Est-ce que ça va évoluer ? Oui. Jeanne, ça t'évoque quoi tout ça ?
Mais je pense qu'il y a une architecture qui commence à arriver, qui ne hiérarchise pas entre la construction et les éléments naturels qui préexistent. Et je pense, enfin, c'est exemple totalement personnel, mais le CDI de mon lycée était construit autour d'un arbre. C'est-à-dire qu'il y avait un grand arbre qui avait poussé depuis des décennies, je pense. Et donc, ils avaient construit le bâtiment autour. Et donc, il y avait une espèce de fenêtre circulaire avec l'arbre qui pouvait quand même pousser. Donc, ils n'ont pas rasé l'arbre pour construire le CDI. Et donc, bon, ça, c'est un exemple vraiment dans un petit lycée et tout ça. Mais je pense que, de façon plus générale, ça peut commencer à se développer de voilà, on n'enlève pas des arbres juste parce qu'on veut construire une maison. On construit la maison autrement.
Ouais. Safia.
Alors moi je connaissais pas cet artiste, mais ça m'intrigue, surtout que je suis cataphile, donc voilà, ça du coup m'intrigue d'autant plus, certainement qu'on peut trouver certaines de ses œuvres cachées, qui peut-être existent encore quelque part dans le réseau, et ça me fait penser un petit peu à cette artiste plasticienne, je ne me rappelle que de son nom de famille, Jospin, comme son père, Eva Jospin. Qui reproduit, enfin, qui crée notamment, qui reproduit des forêts aussi, par exemple, des œuvres comme ça, magistrales. Et voilà. Du coup, ouais, ça me fait penser à ça.
Naturalia, c'est l'exposition de Jonc au Quai de la Photo dans le 13e arrondissement. Je vous laisse y aller si le sujet de la nature qui reprend ses droits vous intéresse. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
À présent, parlons musique. Diane, tu nous fais un focus sur ces artistes des années 2000 qui font leur retour.
Eh oui. Alors, j'ai une petite question d'abord. Est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé le vendredi 23 mai durant le concert de Dua Lipa au Stade de France ?
Oui.
Vas-y, Jeanne, dis.
Elle
a repris une chanson française.
Attends, pourquoi j'arrive pas à trouver son nom ? Oui, je l'ai, mais je ne sais plus. Mylène Farmer, pardon.
Non, pas du tout.
Non.
C'est
Alizée,
je crois.
Je comprends quelque chose.
Donc je vais vous répondre. Pour chaque concert qu'elle fait durant sa tournée, Dua Lipa a pour tradition d'offrir à ses fans une reprise d'un morceau d'un artiste local. À Lyon, elle a offert une reprise de Dernière Danse de Indila. Et à Paris, elle a surpris ses fans avec une reprise de Moi Lolita de Alizée. On écoute un extrait. Ça revient en arrière. Moi, Lolita de Alizée est sortie le 4 juillet 2000, il y a 25 ans.
Ça ne nous rajeunit pas tout ça.
Ouais, c'est ça. Alors, autre info que vous avez sûrement dû voir passer, la sortie du film Partir un jour avec Juliette Armanet qui a ouvert le Festival de Cannes et qui a comme particularité de comporter des reprises de chansons des années 2000, comme Partir un jour de To Be Free, Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, ou encore Femme Like You de Camaro. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Bad boy, tu sais que tu me veux un homme like you. Et puis, dernière info, dans quelques mois, commencera pour Laurie sa Laurie Party, une tournée de retour avec ses plus grands tubes, des chorégraphies, peut-être quelques invités et surtout un réel retour en adolescence pour une grande partie de son public.
Si vous n'avez pas réussi à prendre vos places, vous pouvez encore essayer d'en prendre sur le site de revente de billets Relax Ticket. Un lien complet est à retrouver dans la bio Instagram de Laurie. Mais pourquoi tu nous parles de tout ça, Diane ?
Eh bien, parce que j'en suis persuadée. Les années 2000 sont de retour parmi nous. Elles font leur grand retour. Alors, au-delà des styles approximatifs que nous avions, et je ne vais pas m'aventurer dans une chronique mode car je ne suis pas Loïc Préjean ni Anna Wintour, mais je trouve que ce retour musical nous fait nous questionner sur notre rapport à notre enfance, ou notre adolescence du moins. Pourquoi ces chansons nous ont autant marqués ? Qu'est-ce qui a forgé notre histoire musicale ? Et par exemple, comment une chanson comme « Femme Like You » de Camaro a pu autant marquer les esprits pour être encore pris et repris en 2025 ? Par exemple, Julien Doré l'a repris dans son album de reprise sorti en novembre 2024 et tout le monde est tombé sous le charme. Un autre exemple ? La Star Academy nous a offert l'année dernière un medley spécial année 2000-2010 en ouvrant sur « Jeune demoiselle » de Diams et ça marche, très bien. La vidéo YouTube est à plus de 2 millions de vues. Moi, je pense qu'au-delà de la nostalgie qu'on ressent à réécouter les chansons qui nous ont marquées, dans des moments importants de nos vies, c'est un questionnement sur comment on a grandi, qu'est-ce qui nous a forgé, marqué pour que ce soit la personne qu'on est aujourd'hui. Si on prend « Femme Like You » de Camaro, c'est une chanson anodine en soi, mais quand on l'écoute, il y a sûrement des personnes qui ont roulé leur première pelle dessus. Si on prend « Tu m'oublieras » de La Rousseau, il y a sûrement des personnes qui l'ont écouté en boucle après s'être fait larguer. Et oui, ce sont des souvenirs impérissables, donc loin des stéréotypes ringards qu'on leur attribue, ce sont des chansons impérissables.
Pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain.
Des artistes de notre enfance qui n'ont pas dit leur dernier mot, de quoi raviver de la nostalgie chez certains. Merci Diane. Allez, passons aux réactions. Il y avait déjà un débat qui commençait autour de Juliette Armanet et franchement, on va commencer par ça. Je donne la parole à Ryan.
Oui, alors moi j'ai vu Partir un jour au cinéma, c'est pas le...
Moi aussi j'ai vu.
On n'est pas tous d'accord. C'est pas le film du siècle, d'accord. C'est pas le film incroyable, mais c'est un petit bonbon, un peu comme... Mais en fait c'est ça, c'est le retour des années 2000, c'est feel good, ça nous rappelle des souvenirs... ça se fait se sentir bien, c'est pas incroyable.
Oui,
le film, si vous allez le voir, les chansons, c'est les acteurs qui les chantent la plupart du temps, ils chantent pas très bien, à part Juliette Armanet qui est chanteuse. Mais moi j'aimerais bien dire un truc, c'est que la chanson Partir un jour qui donne le titre au film, bah moi en écoutant Juliette Armanet la rechanter, je me rends compte à quel point c'est une chanson en fait bien écrite en vrai.
Bah oui.
Les paroles sont assez profondes, la mélodie est cool. Et quand je l'entendais des To Be Free avec l'instru hyper kitsch, Boys Band, etc., j'arrivais pas à le voir, ça que c'était une belle chanson. Et il m'a fallu que 25 ans, 20, plus de 30 ans après, Juliette Armanet la chante pour que je me dise, ah en fait. C'est une belle chanson, elle m'a fait l'apprécier.
Tout Bifré avait tout compris.
Ouais, ils étaient incompris finalement, donc bah, merci Juliette Armanet. Et sur le retour aux années 2000, je pense que ouais, c'est la musique, personnellement en tout cas quand je l'écoute, surtout des chansons que j'écoutais à une certaine période, bah, j'ai tout de suite, je me revois à cette période-là. C'est incroyable le sentiment qu'on peut avoir en écoutant des vieilles chansons. C'est très fort et je pense que ouais, c'est pour ça qu'on y retourne.
Garance.
Ouais, moi c'était pas Juliette Armanet que je critiquais parce que je trouve qu'elle a une très belle voix, mais c'est plus pour le coup le film, le scénario et j'ai oublié le nom de sa réalisatrice, mais je sais qu'elle
Amélie
est proche
Bonin.
De Amélie Bonin, elle est proche de La Déferlante, donc assez féministe, donc moi je m'attendais à vraiment une histoire qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude, et là non, c'est un triangle amoureux, c'est le retour de la Parisienne qui vient de la campagne, enfin que des clichés comme ça qui, enfin moi j'ai trouvé, et ça m'a même pas fait du bien, enfin je suis désolée mais...
on va se battre après.
Jeanne, le retour des années 2000.
Pour rebondir à ce que tu disais sur cette sensation très, très singulière qu'on a quand on écoute des chansons qu'on écoutait quand on était plus jeune, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qu'une étude était parue, dont je ne pourrais pas vous donner la référence, mais on pourra le chercher après, qui dit que la musique ne s'imprègne en nous, la période de la vie où la musique s'imprègne le plus fort en nous, c'est l'adolescence,
oui.
Justement.
Oui.
Et que c'est. Que
aux alentours des 13 ans,
voilà,
j'avais vu.
Et que ça modifie notre cerveau, quoi. Oui. Et que du coup, c'est pour ça qu'on est si attaché à la musique qu'on a écoutée quand on a grandi, quoi. Au-delà des souvenirs que ça nous rappelle. Sur le retour des années 2000, là où je suis un petit peu plus réticente, c'est que pour moi, c'est associé à toute une esthétique. Non pas que je sois anti-Y2K, mais je suis plutôt anti-culte de la minceur et toutes ces choses qui sont associées vraiment très fort à la période dans laquelle on a grandi, de 2005 à 2015. Quoi. Donc voilà, tout n'est pas bon à prendre dans le retour des années 2000, mais si c'est que Camaro, ça va.
Safia.
Alors moi, j'en écoute encore en soirée avec... mes copines, ça ne trompe jamais.
C'est la valeur sûre.
La playlist, c'est des années 2000.
On y croit au retour des stars. Est-ce qu'on pense que qu'un artiste peut avoir une carrière presque éternelle?
Pas Michel Polnareff.
J'en étais sûre de celle-là. J'en étais sûre. Non, mais au-delà de ça, ça vous inspire quelque chose, non, Ryan?
Je pense que oui, il y a des artistes qui peuvent avoir une carrière incroyable. Je pense à Cher par exemple, mais elle s'est adaptée, comme Madonna aussi. Elles se sont adaptées. Madonna, elle a fait des tubes hyper R&B, pop, etc. Elle a fait de la pop. Enfin, il faut s'adapter à son époque, mais c'est vrai qu'il y a des artistes qui reviennent exclusivement avec leur tube d'il y a 20 ans. Oui. Laurie.
Alizé, elle va refaire des Olympiades dans 2-3 mois, un truc comme ça, j'ai plus exactement les dates. Mais elle a annoncé des Olympiades, ils se sont remplis genre en même pas 10 minutes. Et je pense qu'elle ne va faire aucune nouvelle chanson parce que maintenant, en plus, elle est danseuse, etc., donc elle ne fait plus de musique. Mais il y a des chanteurs qui ne font que ça. Dans mes notes, j'avais noté que aussi Jennifer a sorti un nouvel album, mais qui est qu'un album de reprise, ouais. Jukebox. Et en fait,
je trouve ça assez curieux. Enfin, c'est cool si ça fonctionne. Moi, j'en écoute de ce genre d'album. C'est pas toujours incroyable. Mais,
son effet quand même.
Ça fait son effet.
Merci pour vos réactions. Alors, parmi tout ce qu'on a dit, on a notamment cité le retour d'Alizé à l'Olympia ou encore la reprise de Juliette Armanet, Partir un jour, qui est disponible partout. Merci Diane pour ce focus musique,
sculpture,
littérature,
musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Nous sommes déjà à la dernière partie de notre émission et nous terminons avec les arts de la scène. Ryan, tu nous parles d'un jeune humoriste émergent nommé Ethan Lalouse.
Son nom ne vous dit peut-être presque rien, mais c'est sans aucun doute l'un des jeunes stand-uppers à suivre de près ces prochaines années. Depuis son poste de télévision à Casablanca, où il a grandi, il a été biberonné par les sketchs des plus grands, de Gad Elmaleh à Jamel Debbouze en passant par les pointures du Marrakech du Rire et la génération Jamel Comedy Club. Deux, il a gardé un style percutant, des punchlines incisive, un goût prononcé pour l'improvisation et une autodérision à toute épreuve.
Je suis juif et j'ai grandi au Maroc, ça veut dire que je suis juif et arabe. Les deux. Tous les jours. Et je ressemble à Jésus. Non, en vrai, en plus, je suis juif, arabe, et je suis arrivé en France il y a 2 ans. Ça veut dire que je suis aussi immigré. C'est moi le grand remplaçant dont on parle actuellement.
L'identité, la religion, la politique, le conflit israélo-palestinien, Ethan Lalouse ne s'interdit rien. Être drôle en parlant de thèmes qui ne le sont pas, en voilà un de pari risqué.
Et c'est précisément ça qui l'a séduit dans le stand-up.
Tout à fait, car lui, le jeune espoir de l'humour, était auparavant un jeune espoir du football, qu'il a pratiqué à haut niveau, mais les blessures à répétition l'ont peu à peu fait bifurquer vers la scène. Une force extraordinaire qui nécessite toutefois beaucoup d'entraînement, ça tombe bien. Ethan Lalouse s'est rodé pendant des mois et des mois à tester ses blagues sur scène, vu lesquelles faisaient rire, lesquelles réécrire, lesquelles flopaient, comme on dit. Et en bon humoriste 2.0, a posté les meilleurs extraits sur ses réseaux.
Et maintenant, il est prêt.
Prêt à monter sur scène devant une grande salle. Alors allez voir Ethan Lalouse sur scène à l'occasion des 50 ans du Point Virgule, le 24 juin à 20h et à partir du 9 juillet, tous les mercredis de l'été à 21h15.
Un humoriste émergent qui a déjà joué en France, au Maroc ou encore au Canada, plutôt prometteur. Merci Ryan. Allez, passons aux réactions. Est-ce que quelqu'un connaissait déjà Ethan Lalouse ici ?
J'ai l'impression que ces dernières années, il y a une explosion du stand-up. Ou alors c'est peut-être parce que j'étais pas à Paris avant que je m'en rendais pas compte. Mais j'ai l'impression que tous ces réseaux sociaux font émerger plein de gens très très drôles, mais qui du coup doivent se retrouver à se battre pour avoir des places en comédie club et tout ça. Ça doit être très difficile. Enfin, en tout cas, j'imagine que du coup, justement, si tu l'as repéré, c'est qu'il faut peut-être retenir son nom et qu'il est un peu plus dynamique que les autres, je sais pas.
Mais... Et puis c'est vrai que Paris fonctionne avec ce maillage des comedy clubs qui, je pense, propulse assez rapidement quelqu'un qui est prometteur. Garance, je te vois réagir sur le sujet.
Oui, je voulais justement te demander si tu l'avais vu en vrai, parce que je trouve que c'est toujours différent d'avoir des capsules de trucs hyper drôles parce que on les a sélectionnés et qu'on voit tout un spectacle. C'est pas...
Alors moi je l'ai repéré sur les réseaux sociaux parce que les humoristes aujourd'hui ils font plein de comedy clubs et ils postent leurs highlights, leurs meilleurs extraits sur Insta et des fois ça buzz. Je l'ai vu comme ça et je l'ai rencontré oui en vrai. Les sons qu'on a entendus c'est des interviews.
Ah, wow. Trop bien.
Star. Diane.
Non je le connaissais pas, mais pour revenir sur le stand-up et sur l'émergence, ce matin. J'étais en train de regarder une émission de Mediapart qui s'appelle Black Block, qui est présentée par Guillaume Meurice et qui, interview sur scène des personnes qui sont militantes, politiques, etc. et des personnes qui font des blagues. Et celle-ci, elle était à Marseille. Et il disait que de plus en plus aussi, il y a des personnes qui se mettent à faire des comedy clubs ou qui à créer ou à avoir des lieux de comedy club partout en France, pas que dans Paris, mais que ça se développe petit à petit, etc. Et que ça permet aussi d'avoir une émergence de personnes qui ne sont pas parisiennes et qui peuvent quand même avoir accès à des comedy clubs, même sans en faire un métier. Il y a de plus en plus, j'ai l'impression, dans l'émergence aussi des stand-up, etc., des personnes qui font juste ça parce que ça leur fait plaisir et puis qu'ils n'ont même pas d'objectif d'avoir un spectacle derrière, mais juste... pour faire un peu des fins de mois, etc.
Safia, sur le sujet.
Alors, je vais être honnête parce qu'on est entre nous. L'extrait m'a pas du tout convaincue. Les blagues sur l'identité, la religion, c'est vu, revu, c'est lourd, j'en peux plus. Mais j'espère qu'il est plus drôle, qu'il fait des blagues autres que sur les questions identitaires.
Voilà. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qu'il a fait. Il dépasse premier niveau de blague et il propose quelque chose d'un petit peu plus complet. Okay, donc, super. Je te défends, Ethan, si tu nous entends. Ryan, un mot encore sur cet artiste ou l'humour en général ?
En fait, il m'expliquait un truc intéressant quand je l'ai rencontré, c'est que quand on parle de sujets difficiles, genre le conflit israélo-palestinien, qui est un peu un sujet difficile, quand on se loupe, quand on n'est pas drôle... il m'explique que pour lui, c'est plus grave que de rater une blague sur les relations hommes-femmes ou sur les professeurs, par exemple. Si tu te loupes, c'est encore plus casse-gueule. Donc c'est un risque, c'est un pari risqué. Mais apparemment, qu'il fonctionne bien puisqu'il monte en grade petit à petit, step by step. Il a même fait la première partie de Gad Elmaleh. Quand je lui ai demandé le conseil qu'il lui avait donné, il m'a dit « arrêtez le stand-up
». Non, en tout cas, on sent que c'est des sujets qui travaillent quand même beaucoup de son côté. Merci pour vos réponses. Ethan Lalouse sera, comme tu l'as dit Ryan, au Point Virgule le 24 juin prochain pour son premier stand-up officiel. Sinon, vous pouvez le retrouver dans les Comédie Club de Paris. Allez le voir s'il vous intrigue. C'est dans l'art, c'est déjà fini pour ce soir. Et c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous Garance, Jeanne, Diane, Ryan et Safia pour vos chroniques et vos réactions.
Merci.
Merci à toi.
Merci Eléa à la technique. Le programme de la soirée se poursuit sur Radio Campus Paris. En attendant, retrouvez-nous alors où ça ? Sur radiocampusparis.org pour nous réécouter ou alors sur Instagram, c'est dans l'art RCP tout attaché. Là-bas, on y met toutes les références qu'on a citées. Allez voir. Rendez-vous dans la prochaine émission dans 3 semaines pour toujours plus d'art. Portez-vous bien d'ici là et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.